stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Grégoire Di Fiore et prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Marie Audroux, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis pour parler ce soir de GFT de Handel, dirigé par William Christie, mise en scène Klaus Gut à l'Opéra de Paris, du DVD des Indes galantes de Rameau, dirigé par Ivor Bolton, mise en scène Sidi Larbi Cherkaoui, un DVD qui est paru chez Bel Air, et puis enfin du CD plus DVD des Troyens de Berlioz, version de concert dirigée par John Nelson, c'est chez Erato. Ce soir, Grégoire Di Fiore était également avec nous pour surveiller les fils Facebook et Twitter, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour la pièce Vendredi 13 de Jean-Louis Boer, place à gagner pour samedi 20 janvier à 20h45, c'est au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au Palais Garnier pour une nouvelle production de Jephtha de Handel, un oratorio en trois parties composé en 1751 sur un livret en anglais du révérend Thomas Morel, d'après le livre des juges. Cette œuvre avait été donnée à l'Opéra de Paris en 1959, année de sa création scénique. Cette fois, c'est Klaus Gut qui signe la mise en scène, William Christie est dans la fosse. On écoute un extrait de cette production.
Thank you.
Voilà pour cet extrait de Jephta, avec un remerciement particulier à nos camarades de France Musique pour la qualité de cet enregistrement qu'ils ont assuré, puisque France Musique diffusera l'opéra le 28 janvier. Par quoi est-ce qu'on commence, Marie-Audreau ? Parce qu'on entend ou parce qu'on voit ? Vous choisissez.
Peut-être parce qu'on entend, non ? Allez. Puisqu'on vient de l'entendre.
Ça donc, paraît tout à fait logique.
Oui, voilà, c'est Ian Bostrich, donc ténor britannique plus connu dans Britten ou Schubert, dont il est un interprète reconnu, qui là donc chante ce rôle-titre de Jephta. Et on vient d'entendre l'air où ces personnages furieux depuis le début, tout à coup, se rendant compte de l'horreur de ce qu'il a lui-même provoqué, à savoir la mort de sa propre fille, le sacrifice de sa fille, eh bien, consent finalement à demande au ciel à ce que cette jeune femme devienne une sorte d'ange, voilà. Et donc, c'est cet air très, très apaisé, le seul de la partition pour lui, en tout cas, qu'ici, Bostrich chante avec cet art complètement consommé du texte, cette manière de porter la note tout en la rendant complètement crédible sur le plan du poids, du sens. Et je trouve qu'on a une forme de quintessence de ce que peut être le très très beau chant dans ce type de musique. Et c'est vrai qu'on a... Que Bostrich ici atteint vraiment, pour moi, une forme de sommet dans la prosodie.
On dit que ce début à l'Opéra de Paris, c'est quand même étonnant. C'est pas un tout jeune homme.
Non, il a une cinquantaine d'années, ouais. Je crois, aujourd'hui, et c'est quelqu'un. C'est pas quelqu'un qu'on voit tellement non plus sur les scènes lyriques, hein, d'une manière générale, ouais. Hormis les opéras de Britten dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, là, ça a été une révélation, je crois, pour le public, et puis pour nous, une révélation dans ce type de rôle où on ne l'entendait pas dans Handel. C'est vrai que moi, personnellement, c'est la première fois que je l'entendais dans ce répertoire.
On a entendu ça avec quelle qualité. Emmanuel Dupuis, pour poursuivre sur dimension musicale et plateau vocal, peut-être.
Je rejoins en partie Marie-Aude sur Ian Bostrich. Effectivement, dans cet air-là, enfin, dans ce passage totalement élégiaque, dans ce registre totalement élégiaque, il était effectivement absolument bouleversant. Mais en revanche, dans les airs un peu plus héroïques, je trouve justement que la voix manque un peu d'héroïsme, qui manque un peu de grave. Et que les vocalistes sont pas d'un aplomb toujours absolument irréprochable, mais malgré tout c'est un très grand artiste. Il y a effectivement ce souci du texte, de la façon dont il porte le texte dans la phrase musicale, c'est absolument merveilleux. Voilà. Et puis autour de lui, on peut pas dire qu'il y ait vraiment de maillon faible dans la distribution. Marie-Nicole Lemieux, qui chante le personnage de Storge, donc l'épouse de Jephta. Bon, elle a parfois tendance à en faire beaucoup, mais ça, c'est dans sa nature. C'est une artiste très, très investie. Mais en même temps,
vocalement. Mais c'est ce qu'on aime aussi.
Vocalement, voilà. Et vocalement, elle est vraiment l'incarnation de la figure maternelle. C'est avec sa voix ronde et chaude, c'est exactement ça. Donc là aussi, on succombe. Catherine Watson qui joue la jeune fille, la fille de Jephta qui doit être sacrifiée par raison divine. Iphis, donc c'est Catherine Watson, c'est très jolie voix. C'est pas une grande voix, c'est pas une voix qui projette beaucoup, mais c'est très joli, c'est charmant. Et puis les deux contre-ténors, Valère Sabadus et Timmide, on s'interroge sur la prononciation.
M-E-A-D. Voilà. Timide ou Timède?
On va dire Timède plutôt.
Sont tous les deux
excellents. C'est quand même dans l'ensemble une très très bonne distribution.
Emmanuel Giuliani, on poursuit sur la musique et sur ce plateau vocal, si vous avez d'autres commentaires à y faire.
Le plateau vocal, sur ce que vous avez dit, Ian Bostrich, évidemment, sa voix n'a plus ce timbre absolument, mais diva. Alors, qui partageait d'ailleurs les auditeurs. Certains l'adoraient, j'avoue que j'en suis encore. C'est vraiment un timbre inimitable, d'autres aimaient moins. C'est vrai que la souplesse, l'égalité du timbre n'est plus tout à fait là, et ça s'est un petit peu raidi. Mais comme vous l'avez dit, c'est un tel interprète qui est tellement habité et physiquement, et vocalement, et musicalement, et comme vous l'avez dit Mario, dans la prosodie, dans la manière dont chaque mot est distillé, sans que ça paraisse artificiel pour autant. Quand il fait une reprise pianissimo, quand on vient l'entendre, de l'entendre, on se dit pas, tiens, il fait la reprise pianissimo parce qu'on fait la reprise pianissimo. C'est parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, il ne peut que bercer un peu plus cette fille qu'il va sacrifier. Pour la bercer, mais il faut l'endormir et à l'oreille, l'endormir et nous endormir avec. Ça devient complètement hypnotique, d'une tendresse incroyable. Le reste de la distribution, moi, j'étais très sensible, en effet, à la voix de Tim Mead ou Tim Med. Non seulement la voix, la présence, l'autorité scénique, et dans le tragique et dans le plus élégiaque, le plus amoureux, un duo sublime avec Ifis au cours du premier acte. Elle, je la trouve charmante, mais un peu monochrome. Mmh. Et en fait, peut-être, pour ce qui est de la longueur du rôle, c'est peut-être elle le rôle principal, en fait. Elle chante énormément, beaucoup d'air, qu'elle ne contraste pas tout à fait assez. Et donc, ça manque. On aurait aimé une Lynn Dawson à sa grande époque. Enfin, ses voix absolument qui a un petit grain à elle et qui soit un petit peu moins monotone. Mais c'est très joli.
On peut dire qu'elle s'est quand même améliorée au fil des actes. Parce qu'au début, elle est, en jeune amoureuse, elle est assez insignifiante. Et après, en jeune femme sacrifiée et acceptant d'être sacrifiée, elle prend une dimension quand même lumineuse qu'elle n'a pas au début. Et j'ai bien aimé la progression du personnage, en tout cas. Ça, c'était à mettre à son actif.
Et puis Marie-Nicole Lemieux, ça fera très bien la transition avec les Troyens. C'est une espèce de mini Cassandre.
Oui, c'est une Cassandre.
Enfin, mini par le rôle qui est évidemment moins développé que Cassandre. Mais elle retrouve ses imprécations et cette façon dont on sent que s'il ne tenait qu'à elle, la religion monothéiste s'écroulerait très vite. Et elle n'a pas tort, bien qu'étant à la croix, je le dis, vu l'argument de l'opéra.
C'est beau.
Voilà. Et puis il y a les Arflots.
Alors, les Arflots récents, William Christie. Emmanuel Giuliani.
Alors, William Christie, dont on voit, alors moi j'avais la chance d'être au premier rang, donc complètement la tête dans l'orchestre et tout près de William Christie, et on voit qu'il aime cette musique, qu'il en est vraiment tellement imprégné, il se laisse presque bercer par elle plus qu'il ne la dirige à certains moments. Donc peut-être que au fond de l'amphithéâtre, etc., toute cette délicatesse et cette finesse ne passait pas. Moi, elle passait très très bien, et la complicité des musiciens de l'orchestre, le clin d'œil admiratif du premier violon quand les trompettes ont joué merveilleusement au début de l'œuvre, leur dire bah, dis donc là, bravo, parce qu'on sait combien c'est difficile. Enfin, donc il se passe quelque chose, il y a un fluide. Alors, est-ce bien adapté pour le Palais Garnier? C'est mieux que Bastille, n'en parlons même pas, mais qui est quand même un peu grand pour ce genre d'effectif de musique et de raffinement. La question se pose, qui ne se pose absolument pas pour les chœurs, dont la projection, dont la qualité vocale, les contrastes justement. Bon, ils ont un rôle absolument important. Christie, dans le programme, dit que c'est vraiment un des plus remarquables monuments chorales de la carrière de Handel et que c'est aussi bouleversant que la messe en si de Bach, une écriture incroyablement savante, doublée d'une théâtralité saisissante. Et ça, c'est parfaitement exprimé par le chœur.
Ça, on l'a eu sur scène, effectivement, mais je dois dire que William Christie, maintenant, dirige sur à peu près 50 cm, et bon, c'est pas du tout, c'est quelqu'un maintenant qui a pris aussi de l'âge, et je suis d'accord avec Emmanuel sur le fait qu'on sent qu'il y a un amour, il y a une fusion avec cette musique, mais qui est presque intérieure, d'une certaine façon, et que parfois, je dis bien, c'est un petit peu au détriment de la dramaturgie, c'est au détriment des contrastes et des couleurs, parce que cet orchestre qu'on a connu quand même jadis, très contrasté, là parfois on avait l'impression qu'on avait des choses, bon, hormis évidemment les parties solistes dont on parlait, le violon solo qui accompagne l'air ou les trompettes, etc., mais il y avait un côté quand même, je suis en rond, je suis chaud, je suis lové sur moi-même, et peut-être que c'est ce manque de projection, je dirais, qui fait que dans l'espace de Garnier, on a pu, bon, nous c'est vrai que malheureusement heureusement nous, et malheureusement pour le public, mais nous les critiques, on est souvent quand même plutôt bien placés, donc on n'a pas de déficit acoustique, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont
en hauteur,
voilà, peut-être qu'effectivement ça manquait un petit peu de contraste, c'est la petite la légère petite déception que je pourrais exprimer à ce propos.
Est-ce que vous la partagez, Emmanuel Dupuis ?
Oui, il y a toujours une très grande élégance, une très grande délicatesse dans ce que fait William Christie, mais c'est vrai que ça manque souvent, enfin, en l'occurrence pendant ce Jeffetard, de souffle, de profondeur. Et bon, mais il faut dire quand même que, et vous l'avez rappelé Arnaud tout à l'heure, que Jeffetard n'est pas un opéra, c'est un oratorio, et que normalement l'orchestre devrait être sur la fosse avec
sur
le chœur,
sur la scène,
et pas dans la fosse justement, avec le chœur, et que là probablement la projection de l'orchestre serait améliorée. améliorer. Mais le chœur, effectivement, comme le remarquait Emmanuel, lui, était absolument fabuleux. J'ai vraiment, c'est le chœur des Arts Florissants.
Ouais, ouais.
Et j'ai vraiment trouvé là vraiment une très grande cohésion et de très belles couleurs. Ça, c'était vraiment, vraiment très convaincant.
C'est le rôle principal. Hein,
oui, c'est vrai.
Ce qui amène quand même à la question suivante, est-il toujours judicieux de mettre en scène un oratorio, Emmanuel Dupuis ?
Bonne question.
Alors, est-il judicieux de le mettre en scène ? Est-il judicieux de le mettre en scène dans la façon dont l'a mis en scène Klaus Guth ? Double question.
Ça dépend des oratorios. Il y a des oratorios de Handel, comme C'est mêlé, par exemple. Ça marche très bien quand c'est mis en scène, parce qu'il y a quand même un potentiel dramatique. Là, en l'occurrence, dans Jephtha, le propre de cet ouvrage, c'est que les personnages sont davantage dans le commentaire que dans l'action. Et c'est encore plus vrai du chœur qui comme le disait Mariotte, a le rôle principal. Là, c'est un chœur de tragédie antique. Il est là pour commenter, il n'est pas là pour agir. Donc, en réalité, le potentiel dramatique est assez faible. Et ce potentiel dramatique, alors, Klaus Guth le triture un petit peu pour inventer une histoire à sa manière qui, par moment, va quand même, enfin, par moment et même carrément à la fin, va contre l'œuvre. Dès les premières scènes, Klaus Guth montre vraiment déjà beaucoup de violence. On voit un double d'édifice ensanglanté pour annoncer probablement le sacrifice. On voit beaucoup de scènes de bataille. Il y a quelque chose d'assez violent et d'assez noir aussi, parce que tout le dispositif est noir, dans des tons de noir et de gris. Et donc, du coup, dans ce contexte où tout est violence, je trouve que le sujet principal de l'opéra, qui est un sujet intime, qui est le dilemme du père de Jephtha, qui est partagé entre son rôle de héros guerrier et son amour paternel, ce dilemme-là passe un peu au second plan. Et ça va quand même assez gêner. Et quant à la fin, alors c'est vrai que ce happy end est un petit peu invraisemblable, puisque Iphis est sauvé par un ange ex machina qui vient d'un coup de plume sauver la situation, mais là Klaus Guth le ridiculise totalement et fait faire des personnages des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils expriment, de ce qu'ils chantent, tout simplement, de ce qu'exprime la musique aussi. Et notamment, Jephtha, à la fin, remercie le Tout-Puissant pour sa clémence et il crache par terre. Enfin, il crache à la face de Dieu.
Oui,
donc,
oui.
Voilà. Et quant à Iphis, qui est censé se réjouir de son sort nouveau, elle est sur la ligne d'hôpital et elle devient folle.
Mario Dro.
Non, c'est vrai, effectivement, c'est pas du tout une fin heureuse. Mais c'est vrai que même dans l'oratorio, la fin heureuse, elle est tellement. C'est Deus ex machina de cinq dernières minutes, personne n'y croit. Donc c'est parce que la bienséance l'exige. Mais il est bien évident que le drame demeure jusqu'au bout. Et moi, ce que justement, à contrario de vous, Emmanuel, apprécié chez Guth, c'est que ça, justement, il n'a pas eu peur de scoltiner avec ça. Et de vraiment l'exprimer. C'est vrai qu'on peut imaginer que Jephtha ne remontera pas sur le trône parce qu'il va errer, il a déni de Dieu, donc ça y est, la croyance ne peut plus exister. Le cœur, qui est censé lui aussi être dans un acte de louange, bandit le poing à la face du ciel, hein. Et puis la jeune qui devient religieuse, en fait on lui coupe les cheveux, on l'amène dans un couvent, elle devient neurasthénique et elle déchire ses oreillers parce qu'elle va devenir folle. Donc en fait personne ne s'en sort j'ai trouvé que cette manière de, depuis le début, hein, c'est vrai ce que dit Emmanuel, il y a tout un prologue que j'ai trouvé magnifique d'ailleurs, avec les vidéos sont sublimes pour moi, hein. Donc de ces ciels fuligineux avec ces espèces d'éclairs de comme de conscience où tout à coup on voit quelqu'un qui est en train de se faire tuer ou un acte de voilà, parce qu'effectivement il y a un combat, hein, entre les ammonites et les hébreux et les israéliens, et donc en fait toute cette violence elle est là quand même, même si effectivement Handel ne la met pas. Quoique, quand même, il y a beaucoup d'airs qui sont quand même assez violents. Hein. Donc, je trouve que là, Guth, il a quand même pris ça à bras le corps et il l'a quand même montré. Ce qui est pas du tout évident.
Le dernier son de cloche, ce sera Emmanuel Giuliani sur cette mise en scène.
qui serait un petit peu entre les deux.
Et bon, la synthèse.
Voilà, je trouve que toute la fin, même si certaines attitudes, le fait de lier sur une table, Iphis au moment du sacrifice, enfin, il y a des choses très explicites qui, je trouve, dans ce genre d'œuvre, ne collent pas vraiment. Il y a un abus un peu de plaie sanguinolente réelle, ou etc. Bon, ça, mais la manière dont c'est mis en histoire, et notamment dont la fin se tend et devient tragique, moi, m'a plutôt plu. En revanche, je trouve que le tragique est là trop tôt, dès le début, ce qui fait que le scandale du sacrifice passe presque comme une lettre à la poste. Or, il faudrait que vraiment ça soit un pavé dans la mare et un scandale absolu. Et qu'après, ça se noircisse et que ça se finisse mal, alors que les paroles semblent heureuses, pourquoi pas? Mais il faudrait pas que dès le début. Voilà, moi, c'est ça qui m'a gênée, c'est qu'il n'y ait pas de progression dans la noirceur, elle est trop là tout de suite.
Jephta de Handel, direction William Christie, mise en scène Klaus Guth, c'est à l'Opéra de Paris jusqu'au 30 janvier, donc diffusion sur France Musique le 28 janvier, à suivre dans la dispute Rameau et Berlioz.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la musique avec un DVD, celui contenant les Indes galantes, ceux, parce qu'ils sont deux, dans une mise en scène de Sidi Lerby Charkaoui, dirigée par Ivor Bolton, c'était à Munich, DVD édité par Bel Air Classique, un des Indes galantes premières en date des six opéras ballets de Rameau, créé en 1735. Des jeunes gens de quatre nations, France, Italie, Espagne et Pologne, délaissent leur retraite tranquille pour le combat, puisqu'ils préfèrent la gloire au plaisir de la jeunesse et de l'amour. Quelle drôle d'idée. On va passer dans différents pays. Les Indes, c'est-à-dire la Turquie, le Pérou, la Perse, l'Amérique. Beaucoup de péripéties amoureuses.
Thank you.
Voilà ce quatuor des fleurs pour ouvrir notre discussion autour de cette DVD, donc avec les Ânes Galantes de Rameau, mise en scène signée Hermé Charkaoui. Direction Ivor Bolton. On va suivre la jurisprudence Marie Audrou et Emmanuel Dupuis. Vous allez commencer par parler de musique, puisque c'est ce qu'on vient d'écouter.
Musicalement, là aussi nous avons un très très beau chœur. C'est le chœur Balthasar Neumann de Freiburg. Ouais. Vraiment avec beaucoup de puissance là aussi, un bel, de même que l'orchestre du Festival de Munich. En revanche, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de raideur, même beaucoup par moment, de raideur dans la direction d'Ivor Bolton, qui peine à varier les climats lui aussi, parce que c'est un des problèmes du spectacle, on va en reparler tout à l'heure. C'est dans l'ensemble assez bien chanté. Il faut dire qu'il y a, même si ça a été filmé à Munich, il y a beaucoup de chanteurs français sur scène, ce qui est heureux parce que, on le sait, Rameau, c'est autant du chant que la déclamation. Et voilà, bon, il y a notamment la jeune Elsa Benoît. Qui est absolument craquante, de même que Cyril Ovitti, qu'on connaît bien dans le registre de l'opéra baroque. Et voilà, il faut citer aussi François Lys, Lisette Opressa. Enfin, c'est vraiment une distribution assez convaincante dans l'ensemble. Mais ensuite, j'aurai quelques réserves sur le spectacle
lui-même.
On en parlera tout à l'heure.
Emmanuel Giuliani, musicalement, là encore.
Musicalement, c'est-à-dire j'ai beaucoup de mal à dissocier musique et scène dans ce spectacle. En fait, pour être franche, moi, c'est un spectacle qui m'a absolument enthousiasmée lorsque je l'avais vu à Munich. C'est un de mes plus grands souvenirs lyriques des...
À ce point.
Et la salle était complètement hystérique et j'avoue que j'étais...
Vous avez été gagnée par cette hystérie.
Non, mais dès le début. Enfin, pour moi, c'est un des spectacles les plus prodigieux que j'ai vu ces derniers temps.
Et à la revoyure.
Alors, à la revoyure, il y a évidemment, mais c'est tellement compliqué à filmer ce spectacle, parce qu'il y en avait partout, tout le temps, une idée par minute, une chorégraphie,
une
virtuosité absolument...
C'est sa marque de fabrique.
Absolument incroyable. Évidemment, le DVD... Mais est-ce que ça pourrait être autrement, surtout que c'est Andy Sommer qui réalise, donc c'est pas un inconnu, et pour lui l'opéra n'est pas inconnu. On perd énormément de l'ambiance et de l'électricité qu'il y avait sur la scène. Et c'est vrai que la distribution, même si on pouvait préférer le timbre de Cyril Ovitti à celui d'un autre chanteur, et se dire que il y avait des choses un peu inégales dans la distribution, globalement il y avait une immense cohérence. Et donc, vraiment, d'où... moi, j'ai pas envie de sortir tel ou tel chanteur, tellement c'était inclusif, si je puis dire.
Très bien dit. Marie Audrou.
Alors, je n'ai pas vu le spectacle à Munich, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'intelligence du propos, à savoir ces quatre tableaux, enfin, prologue et quatre tableaux qui, habituellement, sont vraiment des scénettes séparées. L'idée de faire revenir des personnages, de lier tout ça, même si ça complexifie l'appréhension qu'on peut en avoir. De toute façon, en gros, le propos, c'est la guerre, et choisir entre la guerre et l'amour, et choisir plutôt l'amour que la guerre, si possible. Donc, on peut résumer, et puis intégrer faire la paix dans le monde et tout. Donc, il y a quand même de la part de Sidi Larbi Cherkaoui, il y a évidemment une critique sociale, puisqu'on a un camp de migrants à la fin, mais en même temps, je trouve que c'est fait de manière intelligente, parce que justement, tous ces personnages, on les retrouve, c'est comme une sorte de ronde à la Watteau, c'est quelque chose où les personnages circulent comme ça, les amours circulent, et je trouve que moi ça m'a beaucoup plu sur le plan, je dirais, à la fois intellectuel et visuel, pour ce qu'on peut juger par rapport au DVD, où il y a quand même beaucoup de plans, de gros plans, et où évidemment parfois on rate la chorégraphie parce qu'on est sur la chanteuse. Donc voilà, c'est ce que je pourrais en dire. Musicalement, bon, juste un petit mot, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel sur le fait que l'orchestre pourrait être plus vivant, plus... Mais bon, comme la distribution se défend bien, ça donne quand même un charme, Mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire sur le spectacle lui-même. Après, c'est difficile d'en juger. Moi, j'ai quand même eu l'impression que Sidi Larbi Cherkaoui, il a eu peur d'être trop chorégraphe dans cette œuvre, et que du coup, il s'est fait plus metteur en scène que chorégraphe, et peut-être, mais ça encore une fois avec des pincettes, parce que je ne suis pas une spécialiste de la danse, peut-être aurais-je aimé plus de variété, plus d'inventivité dans les danses, qui parfois tournent un petit peu toujours sur les mêmes la même typologie de gestuelle.
Mais depuis, vous ne l'avez pas vu depuis la salle, vous n'avez vu que le DVD.
Je n'ai vu que le DVD.
Voilà, mais pour préciser les choses.
Je trouve que l'Arbi Chakaoui n'est pas assez chorégraphe, mais je trouve qu'il refuse le côté spectaculaire de l'ouvrage. Et c'est ça qui est le plus gênant. Parce qu'en fait, les Ânes Galantes, il ne faut pas non plus faire dire à cet ouvrage ce qu'il ne dit pas. Il y a un côté folie bergère avant l'heure ou Broadway avant l'heure. Et ça, ce côté-là, il faut l'assumer. Or ça, je trouve qu'il ne l'assume pas du tout.
Il ne le choisit pas. Il ne choisit pas cette lecture-là du tout.
Mais le problème, c'est que...
Il n'y a aucun exotisme, par exemple.
Non, voilà, il n'y a aucun exotisme. Mais oui, mais c'est le sujet de l'opéra. Donc c'est quand même un problème. Et moi, je trouve que sa conception repose sur un contresens. Parce que ce qui est au cœur des Ânes Galantes, c'est justement l'exotisme, les changement d'atmosphère, la diversité, les contrastes, puisqu'on a cet opéra qui est divisé en quatre entrées, c'est-à-dire en quatre tableaux qui chacun se déroule dans un pays différent, en Turquie, au Pérou, en Perse, chez les sauvages d'Amérique. Et là, on a un décor unique.
Oui, mais on sait bien qu'à cette époque-là, l'exotisme n'est pas un véritable exotisme. C'est un exotisme qui permet de faire passer les idées des Lumières. Donc c'est un exotisme, je dirais, de décoratif. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des Incas du Pérou, il n'y a pas besoin d'avoir un Turc généreux.
Mais on peut trouver une transposition contemporaine de l'exotisme de l'époque de Rameau. Et alors là, non, il n'y a plus aucun exotisme, il n'y a plus aucune diversité, puisque tout se passe dans un décor unique, c'est une salle de classe. Alors il y a des vitrines aussi qui font penser à un moment à un musée.
Oui, ça devient un musée à un moment, oui, c'est un musée.
Et puis on a des personnages. Donc comme il y a certains chanteurs chantent différents rôles, comme l'a dit Mariotte, qui reviennent d'un tableau à l'autre, mais ils ne changent pas de costume. Donc du coup, enfin moi, je dis quelqu'un qui ne connaît pas l'ouvrage, qui n'a pas lu synopsis, à mon avis, n'y comprend rien. Moi-même, il a fallu un moment que je revienne au livret parce que je ne savais plus qui était qui chantait quoi, parce que tout devient confus, tous les caractères sont aplanis et tout devient confus. Et la seule idée originale, entre guillemets, c'est à la fin les sauvages qui sont des migrants. Je dis originale entre guillemets parce que c'est pas la première fois qu'on voit des migrants sur les scènes d'opéra. Ça commence à devenir un lieu commun de la mise en scène contemporaine. C'est original et en même temps, c'est un peu gratuit. Je comprends pas tellement le sens de cette réinterprétation. Et voilà. Et puis surtout, moi, c'est ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est ce côté spectaculaire, ce côté éclate qu'on doit avoir dans les Ânes Galantes, et notamment à travers la chorégraphie, ce qui est quand même très étonnant, parce qu'on a cette chorégraphie de Sidi El Arbi Chakaoui qui est quand même très économe de assez physique, mais en même temps très économe de mouvements. Et surtout qui ne traduit pas l'euphorie qu'il y a, l'euphorie absolument formidable qu'il y a dans la musique de Rameau. Et ça m'a beaucoup gêné.
Alors, de la salle, visiblement, vous l'avez totalement ressenti, cette énergie, cette force.
Une énergie incroyable, une qualité de la compagnie des danseurs, mais absolument, on se demandait comment, à la fin du spectacle, ils avaient encore cette énergie quand il y a ce grand moment qui devient une bataille et qui se termine, sur la chaconne. Et au contraire, il y avait j'emploie l'expression d'électricité, et surtout accompagnant complètement ce déséquilibre de la musique de Rameau, où on est toujours comme quand on est enfant, où on joue à tomber, au dernier moment on se rattrape. Et ça, on l'avait tout le temps. Ce qui est d'ailleurs incarné par François Lys dans l'acte des Incas du Pérou, si je me trompe pas, où il tombe comme ça au milieu du chœur. Et on avait toujours cette impression qu'il n'y avait pas un geste qui n'était pas musical. Et puis le fait de retrouver les personnages d'une entrée à l'autre. Au contraire, moi je me sentais un peu comme dans la comédie humaine, où Rastignac est l'un des personnages principaux du Père Goriot, et puis on le voit juste apparaître dans un autre roman. Et donc ça donnait une humanité et une psychologie, alors que dans les Ânes Galantes, les personnages n'ont pas, on n'est pas dans de la psychologie.
Mais là, ça
apportait une psychologie qui était extrêmement attachante, notamment à travers le personnage de Lisette Oropesa, qui est donc cette institutrice, et qui veut protéger en permanence ses enfants de la violence du monde, mais tout en les faisant voyager, en leur montrant une carte de géographie. Et puis, en plus, ce qui est très exaltant, c'est pas unique dans ce spectacle, c'est la manière dont les chanteurs étaient associés à la chorégraphie. En prenant certains beaucoup de risques, notamment dans l'effet de tempête, où Anna Prohaska d'ailleurs est très douée pour ça. Et puis des moments absolument splendides, par exemple dans les fleurs, comment les couvertures, peu à peu, sont des couvertures toutes bêtes. En effet, on peut se dire encore un camp de migrants, il y en a marre. Et puis peu à peu, elles prennent de la couleur. On ne sait pas comment ces couvertures marronasses deviennent tout à coup colorées. Il doit y avoir un effet de magie.
Et puis,
tout à coup, elles s'envolent et ça devient complètement exaltant. Non, moi, j'en suis encore toute retournée de ce spectacle.
Ouais, mais peut-être aussi de sa vision depuis la salle.
Oui, bien sûr.
Moi, j'ai senti, mais parce que Sinéad Michargaoui, depuis quelques années, est de plus en plus dramaturge et de moins en moins chorégraphe dans ses propres spectacles. Et ça fait partie, je pense, de ce nouveau parcours qu'est le sien, qui veut effectivement amener du contemporain toujours, des questions importantes.
Enfin, après, elles ne sont pas pesantes.
C'est
peut-être aussi parce que je vois régulièrement ses propres spectacles et que je ne doute pas de ses bonnes intentions, mais les bonnes intentions ou les bons sentiments, faut pas toujours forcément des bons spectacles. En tout cas, sur le DVD, moi, j'ai pas été non plus très convaincu. Alors, j'avoue que je connais pas l'ouvrage comme vous le connaissez. Je l'ai vu 2 ou 3 fois, je pense. Mais alors, la complexité de compréhension, je rejoins complètement Emmanuel Dupuis. Je défie quiconque de comprendre quoi que ce soit en le regardant d'une façon simple.
Mais est-ce qu'on le comprend vraiment quand on le voit plus traditionnellement monté? On se paume toujours un peu dans les personnages. On sait plus très bien qui est l'amant de qui.
Il ne s'agit pas de monter de façon traditionnelle, il s'agit simplement de respecter la dramaturgie qui est basée sur le contraste et sur les différences. Alors là,
on comprend bien le geste de vouloir tout lier, la globalisation, la mondialisation, etc. Moi, je ne suis pas convaincu non plus, Emmanuel Dupuis.
Pour parler d'une autre chorégraphe, j'étais beaucoup plus convaincu de la proposition de Laura Scozzi, qui a mis en scène Les Zones Galantes aussi. Ça a été filmé d'ailleurs, c'est disponible en DVD. C'est dirigé par Christophe Rousset.
Qu'on fasse le match retour.
Un spectacle moins prétentieux, mais que je trouvais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus convaincant.
Ah, j'ai pas vu passer ce DVD, on va le mettre au sommaire d'une prochaine dispute. Emmanuel Dulany, non. Pas convaincu.
J'avais trouvé que c'était pas mal, mais très anecdotique.
Moi aussi.
Très anecdotique.
À Toulouse.
À Toulouse. Mmh. Et puis, dans l'ensemble, musicalement, quand même, beaucoup moins bien. Malgré la présence aussi de Cyril Ovity, si je me souviens bien, qui lui était très, très bien.
Mais moi, je trouvais ça plus convaincant.
Bon. Faites-vous votre avis par vous-même en vous procurant, vous en offrir le DVD Les Indes Galantes de Rameau, dirigé par Ivor Bolton, mise en scène Sinéad Michargaoui, il ne peut pas tout faire, Klaus Guth, il en fait déjà beaucoup. Tout ça, c'est paru chez Ben Air Classique.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute musicale ce soir avec pas moins de 4 CD et 1 DVD pour une version de concert des Troyens de Berlioz. Le DVD en montre certains passages. Rappelons que c'est inspiré de l'Énéide de Virgile. L'opéra dirigé ici par l'Américain John Nelson à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg avec les chœurs de l'ONR et ceux du Badischer Staatsopern et le plateau vocal assez étincelant. On dit bien Spires pour Michael ou il faut dire Spears?
Comment Spires.
On passe pas moi, je dis Spires.
Spires.
Allez, Joyce Di Donato, Stéphane Degout, Marie-Nicole Lemieux, Cyril Dubois, Stanislas de Barbérac ou encore Marianne Crébassa, n'en jetez plus. C'est vraiment une nuit d'ivresse et d'extase infinie.
Oh.
Nous devons la vérité à nos auditrices et auditeurs. On n'avait pas envie de chanter cet air, on avait envie de le goûter pleinement, mais que nos auditrices et auditeurs le goûtent aussi. Donc extrait de ce coffret CD DVD des Troyens de Berlioz, Emmanuel Giuliani.
Oui. Pas la peine de cannabis récréatif ou autre chose, on écoute ça et ça y est, ça suffit. au sein de cette distribution que vous avez citée, ouais. qui est magnifique et très très bien accompagnée par John Nelson et un orchestre strasbourgeois vraiment absolument admirable, moi j'avais envie de faire une déclaration d'amour musical toute particulière à Joyce DiDonato qu'on vient d'entendre, qui est quand même une artiste, mais prodigieuse. Tout ce qu'elle touche, sa Marie Stuart était incroyable. Cet été, encore à Munich, dans une production horrible de Sémiramide, mais elle était. Mais c'était même pas inouï, tellement c'était génial. Enfin voilà. Et là, elle fait, parmi ses camarades qui sont tous de très 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 bon niveau, une Didon. C'était une prise de rôle qui est absolument faramineuse, d'intelligence, de musicalité. De là, on entend la Didon heureuse, amoureuse. Après, il va y avoir la Didon trahie, ses imprécations et puis ça, voilà, la manière dont elle se résout à mourir. Et on va passer. On parlait de contraste précédemment. Là, elle va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des plus joyeuses aux plus tristes. Et l'ensemble de ce disque est vraiment une merveille. Rencontre vraiment de deux concerts qui ont été exceptionnels à Strasbourg, exceptionnels, où il se passait vraiment quelque chose. Et c'est très, 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 très beau. Et les quelques personnes qui peuvent dire encore que Berlioz, oui, c'est pas intéressant, c'est pompier, etc., on écoute ça. Ouais. On a ce refrain, si on peut dire, qui revient toujours, mais avec une orchestration complètement différente. C'est une partition génialissime de bout en bout. Là, on est dans un des plus beaux moments. Et c'est vraiment un coffret à s'offrir, à offrir à tous les gens qu'on aime, même à ceux qu'on n'aime pas, qu'ils deviennent gentils.
Ils deviendront meilleurs.
Non, Marie.
Je vais pouvoir faire on va pouvoir faire une déclaration commune parce que je suis absolument comme Emmanuel. Moi, effectivement, tous les autres m'ont énormément touchée, mais la Didon de DiDonato, elle m'a vraiment émue aux larmes, mais vraiment aux larmes. Et je trouve qu'elle a donné une humanité à cette reine carthaginoise. On est dans la passion amoureuse pure. On est dans quelque chose d'extrêmement sensuel, d'extrêmement sensible. Que n'ont pas forcément toutes les Didons, qui sont parfois plus reines que femmes. Et là, et encore une fois, c'est une Américaine qui chante le français et qu'on comprend parfaitement. Et d'ailleurs, on peut souligner que toute la distribution est parfaitement prosodiquement en place, ce qui est quand même assez exceptionnel aussi. Et pareil, voilà, quel génial, le génial Berlioz, hein, Berlioz qui dans le lyrisme le plus total, qui s'interdit rien, qui va jusqu'au bout de la reprise, de ces tierces qui sont complètement, qui se frottent. Enfin, il y a pour moi une quintessence de la sensualité dans cette musique que je trouve vraiment merveilleuse. Et puis, on a aussi le Berlioz des grandes déclarations héroïques, le Berlioz des revenants, des fantômes qui reviennent et qui a des imprécations. On est vraiment dans une forme de tragédie qu'il a toute sa vie. On sait que c'est l'opéra de toute une vie, que c'est un opéra malheureusement qui n'a pas eu la destinée que Berlioz aurait aimé qu'elle eût. Et il est grand, grand, grand temps, j'ai envie de dire, que enfin cette partition trouve la place qu'elle mérite dans le répertoire, vraiment. Voilà. Et je pense que ce disque peut vraiment l'aider.
Ah, oui, à tout le moins. Emmanuel Dupuis.
Oui, non. Quant à Joyce DiDonato, je rejoins totalement l'enthousiasme et l'amour.
Pourquoi on
ne
l'entend
même
pas plus en France.
Mais voilà, pourquoi elle n'est jamais programmée à l'Opéra de Paris.
Nous avons la chance de l'entendre parce que nous voyageons, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Elle peut tout chanter. Enfin, elle ne chante jamais ce qu'elle ne peut pas chanter. Elle peut tout chanter.
Tout ce qu'elle chante, elle chante de façon absolument...
Elle vient un peu aux Têtes des Champs-Élysées de temps en temps, dans les versions de concert.
C'est vrai, mais pas assez.
Alors ensuite, pour remettre un petit peu les choses en perspective, il faut...
Il essaye de remettre du rationnel.
On va lui envoyer une lettre groupée, de toute façon.
Mais non, mais là, le débat est à l'horizontale, donc on n'y touche pas.
Non, il faut rappeler quand même que dans l'histoire des Troyens, il y a quand même eu une date importante, c'est 2003, quand John Elliott Gardiner a dirigé l'ouvrage au Châtelet. Parce qu'auparavant, on voyait les Troyens comme un avatar du wagnérisme et on faisait souvent appel pour chanter les principaux rôles à des chanteurs wagnériens. C'est le cas notamment de Colin Davis. Quand il a enregistré l'ouvrage, de façon géniale d'ailleurs, avec John Vickers, très grand Tristan devant l'Éternel, qui chantait le rôle d'aîné en l'occurrence. Mais avec Gardiner, tout a changé, parce que Gardiner, qui venait du baroque, lui a remis l'ouvrage dans la lignée de la tragédie lyrique et de Rameau, de Gluck.
Meyerbeer.
de Meyerbeer également. Et il a fait appel à des voix beaucoup plus lyriques, notamment Anna Caterina Antonacci,
dont on se souvient, voilà, qui était...
c'était une révélation absolument faramineuse. Oui. Et d'ailleurs, cette production existe en DVD et c'est vraiment quelque chose d'absolument très, très, très important. Et John Nelson, lui, n'ignore absolument pas la révolution qu'a opérée Gardiner. Au contraire, il fait totalement sienne ses conclusions. Et lui aussi allège la patte orchestrale et fait appel à ses voix donc plus lyriques que d'ordinaire et même vulnérables parfois. Et je trouve que c'est ça qui est bouleversant dans le chant de Di Donato et de Michael Spares. Qui chante aîné, c'est qu'ils sont bouleversants jusque dans leur fêlure. Il y a quelque chose d'absolument fascinant là-dedans. Bon, voilà, et puis il faudrait tous les citer. Marie-Nicole Lemieux qui chante Cassandre. Alors, sa voix n'a peut-être pas la noblesse immédiate du timbre d'Antonacci, justement, mais l'incarnation.
Et saisissante.
Oui, là, il y a une noblesse totale, quoi. Je veux dire, avec beaucoup d'aplomb. Et puis les petits rôles.
Puis nos jeunes gens.
Les seconds rôles sont juste.
C'est-à-dire qu'il a pris les meilleurs.
C'est luxe absolu,
Mais c'est essentiel.
Dubois, de Barbera, Crébassin.
Mais oui, c'est ça.
Tellement beau. De goût, il est juste génial.
Oui, alors là, le correct, c'est pas Tirol, mais de Dubou est absolument fabuleux.
Crébassa.
Voilà. Stanislas de Barberac, Cyril Dubois, qui chante le tout petit rôle de Yopas.
Oui, mais c'est la grande classe d'avoir des chanteurs pareils pour ces rôles-là.
C'est tellement, tellement beau. Ouais.
Non, c'est quand même en plus, c'est le grand orchestre de Berlioz, hein, c'est-à-dire 130 musiciens, 150 choristes, 16 rôles, 6 harpes et 60 cordes. Ouais. Enfin, c'est vraiment. Et parfois, on est dans un allègement, on est une sorte de fumée de son comme ça, et comme quoi, voilà, c'est pas parce qu'on a un orchestre puissant fausse qu'on peut... Et, ça, et encore une fois, Nelson, qui d'ailleurs a été, je pense, la cheville ouvrière de ce projet. Il le voulait vraiment, il voulait graver.
C'est lui qui a trouvé les financements pour le réaliser.
Voilà. On peut aussi, au passage, tirer un coup de chapeau à Erato, qui, dans une période de vache maigre d'enregistrement lyrique, se permet. Mais ça le mérite. Berlioz le mérite.
Emmanuel Duveni, dernier mot.
Oui, il y a un moment plein de moments, mais à un moment dans l'opéra, dans ces Troyens, dans la partie la chute de Troie, absolument incroyable, c'est cet ensemble, je crois que c'est un nocturne autour de Laocoon.
Châtiment effroyable.
Exactement, châtiment effroyable avec les solistes et le chœur. C'est un moment de musique, mais vraiment, on se dit, mais ça a été composé quand? Par qui? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est intemporel.
Absolument. C'est du génie à l'état pur et on n'a jamais entendu ça et on ne réentendra jamais ça. Mmh. C'est vraiment si on n'a que 10 minutes devant soi, on écoute le duo et si on est dans une humeur un petit peu plus guerrière, on écoute le Laocoon.
C'est avec ça, ils sont pas en rupture de stock. Erato, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, que ce CD des Troyens de Berlioz, version de concert dirigée par John Nelson, soit le plus entendu pour le plus grand bonheur de tous. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse. D'abord la question, Grégoire Di Fiore.
Quel animal dont l'allure rappelle à la fois celle du zèbre et de la girafe vit exclusivement dans une petite région au nord-est de la République démocratique du Congo? Et la réponse était l'okapi.
Et voilà, on fait gagner ce soir des invitations pour la pièce Vendredi 13 de Jean-Louis Bauer. Ce sont des places à gagner pour samedi 20 janvier à 20h45. C'est au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Quelle est la question?
Quelle pièce ayant pour sujet les dernières heures de la vie de Mohamed Merah a été accusée en juillet dernier de faire l'apologie du terrorisme?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et c'est plus simple encore, vous abonner au podcast. Demain à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Corinne Rondeau, Anaël Pigeat et Stéphane Coréard. À notre affiche L'Intime et le Monde, exposition collective au Centre Wallonie-Bruxelles. Edgar Sarin expose lui à la galerie Michel Rhin et nous parlerons aussi d'une exposition collective intitulée Always Someone Asleep and Someone Awake. C'est à la Galerie des Galeries.
France Culture, l'esprit d'ouverture.